Notre émission de ce jour est la première d'une série de quatre consacrée à Edmond Fanjat. Edmond Fanjat fait partie de ces 1 343 000 jeunes Français appelés entre 1955 et 1962 qui ont été envoyés combattre en Algérie, dont plus de 13 000 ne reviendront pas vivants. Dans cette première émission, nous évoquerons avec lui son parcours depuis sa naissance jusqu'à la période précédant son incorporation, ce qui nous permettra de le suivre de l'éveil de son militantisme jusqu'au militantisme de jeunes appelés Français opposés à la guerre d'Algérie. Au fil de ses propos, quelques illustrations musicales viendront ponctuer le récit de Edmond Fanjat. Bonne écoute.
Instruction, cette noble devise que tout Français répète à l'unisson. Ce mot sacré que les couleurs disent. Instruction, instruction. La France un jour s'éveillant mutilée se l'avait dit en s'adressant à tous. Partout le sang arrose la vallée. Par ce spectacle, enfants, instruisez-vous. Chacun compris ces sublimes paroles pour éloigner un passé malheureux. De tous les points surgissent des écoles et l'avenir apparaît radieux. Instruction, cette noble devise que tout Français répète à l'unisson. Ce mot sacré que les couleurs disent. Instruction, instruction. Instruisons-nous que ce soit notre gloire. Sous ton égide, ô sainte liberté. Bravons l'astuce, interrogeons l'histoire. Cherchons partout lumière et vérité. Plus de combats, plus de guerres civiles. Le despotisme a fait place au progrès. Le peuple instruit et des champs et des villes en souverain a rendu ses arrêts. Instruction, cette noble devise que tout Français répète à l'unisson. Ce mot sacré que les couleurs disent. Instruction, instruction. Par ce levier, tout homme devient libre, l'enfant grandit et devient citoyen. Par ce levier, ce jeune cœur qui vibre comprend ses droits, les défend au besoin. Le malheureux que l'ignorance aveugle courbe l'échine à la voix du tyran. Et ressemblant à l'animal qui beugle, il porte au cou le sinistre carcan. Instruction, cette noble devise que tout Français répète à l'unisson. Ce mot sacré que les couleurs disent. Instruction, instruction. Instruction, mère de la science, répands à flot tes bienfaits généreux. Que devant toi la servile ignorance s'enfuit voyant tes rayons lumineux. Vous partisans d'une marche en arrière, sachez-le bien qu'un peuple instruit est fort. S'il peut parfois s'attarder dans l'ornière, un jour pourtant il touchera au port. Cette noble devise que tout Français répète à l'unisson. Ce mot sacré que les couleurs disent. Instruction, instruction.
Monsieur Fanjat, bonjour.
Bonjour.
Je vous remercie d'avoir bien voulu accepter cet entretien pour Radio Canu, l'émission Vendémiaire. On parlera particulièrement de votre expérience autour de la guerre d'Algérie, mais bon, propose qu'on commence par le début, c'est-à-dire dites-nous quelques mots de vos parents, de là où vous êtes né, puis de votre enfance et jeunesse, quoi.
Eh bien, moi je suis originaire de l'Isère, dans un petit village rural qui s'appelle Moissieu-sur-Dollon, qui est à 25 km au sud de Vienne, dans le canton de Beaurepaire. Mes parents étaient des paysans, fermiers, pauvres, comme beaucoup à l'époque. Et je suis l'aîné de 8 enfants. Et ma mère en a perdu 2 en bas âge, dont j'ai pas le souvenir, ou très peu. Et j'ai très rapidement eu envie de poursuivre mes études, ce qui était assez rare à l'époque. Donc je suis rentré en pension, cours complémentaire de Beaurepaire, qui était d'un régime dont on n'a pas trop idée maintenant, mais plutôt sévère, peut-être un internat laïque, mais disons très dur.
Vous étiez déjà boursier à l'époque
pour Alors j'ai été boursier, il a fallu passer un concours, à l'époque il fallait un concours des bourses, donc la deuxième année, je l'ai eu, parce que mon père, je ne sais pas s'il aurait eu les moyens de me tenir longtemps comme ça, et c'est de là que j'ai préparé le concours d'entrée à l'école normale. Choisi Lyon plutôt que Grenoble, parce que c'est sur la route, en direct. Et puis j'avais une tante à Lyon.
Donc, et votre primaire, l'école normale, vous aviez quel âge à ce moment-là, quand vous êtes entré?
Alors, je suis rentré à l'école normale à 16 ans.
Ah oui, 16
ans.
Et
j'en suis sorti à 20.
Donc, 16 ans, vous aviez le brevet, quoi.
Alors, on passait le brevet élémentaire. C'était exactement le BEPC. Et puis, on passait un concours d'entrée à l'école normale, qui était quand même assez sérieux, très différent de ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'on rentrait à l'école normale pour préparer le bac. On rentrait en seconde et on préparait le bac les 3 premières années. Et la dernière année était la formation professionnelle, avec des stages, avec des cours, avec les écoles d'application, etc. Donc on apprenait en un an, c'était peut-être un peu court, mais on était quand même directement dans le bain avec des maîtres ou des maîtresses chevronnées. Moi, j'ai toujours un souvenir des gens chez qui j'ai fait ces stages. C'était ces vieux instituteurs remarquables. Enfin, vieux ou moins jeunes, ou moins vieux, hein. Mais vraiment des souvenirs. Là, on apprenait vraiment le métier.
Enfin, vous gardez un très bon souvenir de cette période-là, étudiante.
Oui,
vous aviez des petits moyens, mais...
Oui, on avait des petits moyens, mais on n'avait pas de gros besoins. On était servis comme des princes, finalement. On avait même une bourse de trousseau. Puis c'était assez familial. Moi, sortant du cours complémentaire, la discipline, pour beaucoup de Lyonnais qui faisaient partie de ma promotion, ils se plaignaient parce qu'ils étaient en pension, ils se plaignaient d'un tas de choses, parce qu'il y avait certaines rigueurs à respecter. Il fallait faire... le matin, il y avait toujours 3/4 d'heure de service... dans la maison, etc. Pour moi, c'était devenu... je ne savais pas quoi faire de ma liberté les premiers temps.
Ah oui.
Et oui, parce que je me trouvais tellement bien, avec possibilité de sortir le jeudi à l'époque, le jeudi après-midi, de faire ce qu'on voulait. Je descendais en ville, je ne savais pas quoi faire. À 16 ans, j'étais complètement bouché. Oh, c'est venu vite. Mais enfin, c'est pour dire...
Et vous sortez de cette école normale en quelle année alors ?
Alors, je suis sorti en 1954, en juin 54. Donc, j'avais passé le bac en 2 ans. Ensuite, on passait un certificat qui s'appelait le CFEN, qui était un peu une formalité, mais enfin, il fallait quand même le passer. Il fallait aussi, on faisait un stage d'éducation physique, où il y avait un certain nombre de choses à réaliser également. C'était pas d'une sévérité terrible, mais bon, c'était pas trop mon domaine, donc je m'en suis un peu vu. Et puis, on passait ensuite, une fois nommé, parce qu'on était nommé dans notre poste tout de suite, et jusqu'au 1er janvier, on était en attente de passer le CAP, le certificat d'études pédagogiques, non, d'aptitude pédagogique, avec l'inspecteur et puis une commission. Et après, si on l'avait, en général on l'avait parce que bon, on était sérieux, puis on y tenait, il n'y avait pas de raison.
Et vous étiez formé pour.
Le 1er janvier, on était titularisé. Hein? Alors et... je ne sais pas, à côté d'aujourd'hui, quand je pense à cette masse de jeunes qui sont titularisés au bout de... Dans les services publics, c'est devenu innommable. Donc là...
Il était où, ce premier poste ?
Mon premier poste a été à Villeurbanne, rue Antonin Perrin, où j'avais fait un stage. Et l'école m'avait plu. La maîtresse chez qui j'étais, c'était la toute première, hein, dans un cours préparatoire. Les maîtresses de cours préparatoire, c'est, en général, ce sont des gens extraordinaires. Hein. C'est spécial, le cours préparatoire. Et les maîtresses réussissaient là-dedans à merveille. Hein. Donc, j'avais un souvenir très bien. L'ensemble des collègues étaient des gens remarquables, à tout point de vue. C'était une école combative.
Bon, ça veut dire une école combative?
Eh bien, c'était une école qui se laissait pas rouler dans la farine par un tas de choses. Et je sais qu'au bout de plusieurs mois, le directeur m'avait dit... Vous savez, hein, nous, ici, en 47, quand on a fait grève, toutes les écoles de Villeurbanne avaient repris, mais Antonin Perrin, on a tenu jusqu'au bout. Alors, c'était pas fait pour me déplaire.
Nous protège,
nous ne bougerons pas.
Le syndicat nous protège,
nous ne bougerons pas.
Il nous protège et notre union protège notre syndicat.
Non, 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 nous ne bougerons pas. Non, 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 nous ne bougerons pas. Pas plus que l'arbre aux racines profondes.
Soit blanche ou noire,
nous ne bougerons pas.
Que ma peau soit blanche ou noire,
nous ne bougerons pas.
Pour noir et blanc, le boire et les déboires, on m'aime. Que l'on recule,
nous ne bougerons pas,
nous restons là. C'est toi notre misère qui reculera.
Votre conscience politique, elle est née à quel moment dans tout ça ?
Ma conscience politique, elle est née, dans mon milieu, mon père a eu un grand mérite, à mon avis, je lui ai toujours rendu hommage à ça, je lui ai dit, il est mort jeune, il est mort à 59 ans. Il a adhéré au Parti communiste, tout seul, dans son coin, dans sa ferme, isolée, à 2 km du village, en 1943. Donc, dans un parti qui était encore clandestin. Grâce à un ami intime qui était maréchal ferrant dans un village voisin, chez qui on allait faire ferrer nos chevaux, ou notre cheval, parce qu'on n'en avait qu'un, et qui est devenu maire de sa commune, d'ailleurs à la Libération, il y est resté 30 ans. Et ils allaient à la chasse ensemble avant-guerre. Donc j'ai bien connu cette personne. Et c'est lui qui l'a amené un petit peu à ouvrir un peu les horizons, parce que dans ma famille, c'est une famille paysanne traditionnelle, bon, de droite, mais foncièrement honnête, foncièrement, etc. Mmh. Hein, chez nous, le mensonge, l'hypocrisie, tout ça, pas question.
Chrétienne aussi.
Ah, chrétienne, ma grand-mère était même plus que chrétienne, elle était plutôt bigote. Mais bon, c'est elle qui m'avait mis un petit peu cette histoire d'instituteur dans la tête, parce qu'elle aurait voulu être institutrice. Bon, elle a fait quelques études dans un couvent, là-bas à côté, mais bon, ça s'est arrêté à 18 ans, elle n'y est jamais devenue, elle y a toujours regretté. Bon, je pense que le virus vient un petit peu de là. Donc j'ai grandi un petit peu dans cette atmosphère, et alors à la Libération, mon père j'ignorais bien sûr, moi étant né en 34, donc en 40 j'avais 6 ans, et à la Libération j'en avais 10, 12. Donc il s'est passé pas mal de choses dans ce village, qui était un village totalement apolitique. Je sais que j'ai appris plus tard, j'ai cherché un petit peu, il y avait 2 électeurs communistes avant-guerre. Mais, à la Libération, il y a eu une organisation du Parti communiste importante, avec jusqu'à 28 adhérents sur 400 habitants. Il y a eu 3 maires communistes successifs. Ben bon, disons que c'était quelque chose d'important. Oh, ils se réunissaient pas souvent, ils faisaient pas la révolution, hein, c'était les paysans tous à peu près pauvres, hein, plus... un certain nombre de plus jeunes qui sont allés travailler aux usines Rhône-Poulenc de Roussillon, qui ont eu une influence autrement, là où le parti était organisé déjà depuis longtemps, mais que j'ai connu comme ça, quoi. Donc j'avais un peu ce ferment dans la tête, et puis vers 17-18 ans, première année d'EN, j'ai eu, bon, vous savez, comme tous les adolescents, faut se rebeller contre ce qu'on reçoit, qui vous paraît un petit peu naturel, mais bon, hein, les autres c'est des couillons, nous on a raison. Alors je m'étais un peu rebellé contre cette façon de penser, contre le journal qu'on lisait, qui était au départ le Travailleur Alpin, qui était quotidien, et puis ensuite les Allobroges, qui étaient issus de la Résistance, après le Travailleur Alpin étant devenu un organe hebdomadaire. Mais ça n'a pas duré, ça a été l'affaire de quelques mois. Mon père m'écoutait, un peu surpris. Il me dit, tu verras bien. Puis c'est tout, hein. C'était, mon père, cherchait pas à convaincre. Même avec les autres, il aimait écouter. Il enregistrait. Je me suis aperçu plus tard que c'était quelqu'un qui était d'une solidité dans ses convictions. Mais il cherchait pas à faire,
pas de prosélytisme.
Ah non, pas du tout. Non, lui-même cherchait à comprendre. À faire comprendre aux autres, parce que il manquait un peu de confiance en lui. Il était sûr de lui, mais il dit, mais moi, je ne vais pas discuter. Alors,
ils sont de notre temps, conçus sous les outrages, nés dans le mauvais temps, ils en ont le courage. Arrachés à la laine du foyer de la couche, ils travaillent sans haine et le cœur sur la bouche à l'immense chantier du grand rêve ouvrier de l'international. Les communistes du soleil qui se lève au soleil qui se couche, de relève en relève, de supplice en cartouche, marchant de rêve en pire, et de pire en meilleur, ils ont gravé leur rire sur les murs de la peur, marchant le poing levé, sous les yeux endurciés des marchands d'ouvriers. Les communistes, ils sont partis d'octobre en voyage d'amour, plus recouverts d'opprobre que de fleurs en retour. Ils ont donné leur sang et la fleur de leur âge pour faire à nos enfants un printemps sans nuages. Ils sont déjà trop loin dans l'histoire pour que rien, ni puisse rien changer. Les communistes, les communistes. Moi, des hommes comme ça, je les fais chevaliers du monde de demain. Ils me tendent la main. Moi, des femmes comme ça, je les chante en collier, leur tresse de mes mains, l'herbe sur le chemin. Il faudra bien qu'un jour, coude à coude avec eux, je chausse les souliers des communistes, des communistes, des communistes, des communistes.
Après, donc, dès la deuxième année d'école normale, j'écoutais un petit peu ce qui se disait chez les autres. Et puis, il y en avait un qu'on appelait le Russe. Il dit, ah bonjour, je dis, mais pourquoi on t'appelle comme ça? Oh, ben, il m'appelle le Russe parce que je suis communiste. Je dis, t'es communiste? Ben oui. Je dis, mais moi aussi. Il est toujours ce copain, il est toujours en vie, il est toujours membre du parti. Et il habite Pierre-Bénite. Il est très malade en ce moment, il y a quelques années, je ne l'ai pas vu. Je téléphone un petit peu de temps en temps. Et comme ça, de fil en aiguille, on a discuté, et puis on a essayé de savoir s'il y en avait d'autres. Mais non, c'était pas un milieu très favorable. Et puis quand même, petit à petit, ça s'est révélé qu'il y en a qui penchaient quand même de ce bord-là. Et alors, c'est en troisième année seulement que on s'est un petit peu réunis. On était 10-12. Alors, on a pris des contacts avec l'extérieur. Et ces contacts, ça a été les tout premiers, un couple de professeurs, ils sont disparus tous les deux, qui habitaient Caluire. Lui, il était prof d'histoire au collège Néret, et son épouse était prof de français, mais je ne sais plus où. Elle est décédée pendant que j'étais en Algérie. Quand je suis revenu, j'ai appris ça, j'ai été bouleversé. Et ces deux profs nous ont pris un petit peu sous leur aile en nous disant, bon ben, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que... Oh, mais on fait déjà beaucoup, on se réunit, on discute, on lit. On a réussi à faire rentrer l'humanité. D'abord la République, hein, en troisième année. Et en quatrième année, l'humanité à l'école normale. Ça a causé un scandale. Avec notre directeur qui était un type très bien, que j'ai retrouvé par la suite, hein, qui était un humaniste, profondément laïque, profondément, comment dirais-je, pacifiste, beaucoup de qualités. Il est devenu d'ailleurs, passé un temps, président de la Ligue des droits de l'homme, pour vous le situer un petit peu.
Mais vous n'avez pas constitué une cellule quand même à ce moment-là.
Eh bien, si, on est allé jusque-là. On a constitué une cellule à partir de janvier 53. Donc on se réunissait, on faisait des réunions, on faisait des conférences à l'extérieur avec des personnalités qu'on nous indiquait le dimanche matin, avec des normaliennes également, et on venait, on se retrouvait des fois une trentaine. Mmh. Et puis à l'intérieur, on avait fait ce qu'on appelait un cercle d'études. Alors on était, je vous dis pas, avec le recul, c'était plutôt prétentieux. Hein. Mais on était d'une telle sincérité et puis on faisait de tels efforts pour comprendre tout ce qu'il y avait à comprendre que finalement, c'était... Bon. Mais ces deux camarades-là n'ont jamais fait de pression sur nous pour aller trop vite, pour adhérer. Hein.
Et s'organiser. Comment ces deux professeurs?
Raymond Martin.
Leur rendre hommage aussi.
Ah oui, mais moi j'ai écrit facilement, hein, et j'ai écrit pas mal de souvenirs. Et dernièrement, là il y a un an et demi, j'ai terminé ça avec ma femme, qui elle a adhéré, mais dans une filière totalement différente. Elle a adhéré aux Jeunesses communistes à 15 ans et au Parti communiste à 16 ans. Moi j'ai quand même, c'est arrivé, j'avais 20 ans. Et elle y est toujours aussi, tout comme moi. Et elle a travaillé comme employée à l'âge de 17 ans comme secrétaire dactylo au siège fédéral du Parti communiste, au siège départemental. Donc, elle a connu énormément de gens. Et moi, comme j'ai eu assez rapidement des responsabilités départementales, j'ai connu également énormément de gens. Et un jour, on discutait avec ma femme, elle dit, tu te rends compte, un tel, ils sont plus là, ils sont plus là. Alors qu'on les avait fréquentés, estimés, pour certains, aimés ou admirés, pour d'autres qu'on n'aimait pas, parce que bon, c'est comme partout, hein, mais quand même, j'ai dit, écoute, c'est vrai que là, il y a quelque chose à faire. Je vais faire quelque chose. Et alors, je me suis mis à écrire, donc plus loin que j'ai pu remonter de camarades que j'ai connus. Et j'ai fait des petites lignes ou des petits paragraphes sur chacun d'eux, selon le degré de connaissance que j'avais.
Un métron à votre niveau, non?
À mon niveau tout bête, hein, mais connu. Je rappelle, par exemple, j'ai eu l'occasion de partager un repas assis en face de Marcel Cachin. Il avait 84 ans, ou 86, et il est mort 2 ans après. J'ai connu des gens comme ça. J'ai jamais connu Maurice Thorez, par exemple. J'ai jamais vu. Mais par contre, j'ai connu intimement, c'est beaucoup dire, mais pour dire d'avoir parlé comme on parle tous les deux, avec Jacques Duclos, qui était un phénomène. C'était remarquable de discuter avec un type pareil. Ce qu'il pouvait savoir était hallucinant. Enfin bon, des gens comme ça. J'ai rencontré même à l'échelle internationale, j'ai eu l'occasion de voir. Par exemple, il y a des choses qui me sont restées sur le cœur. Au moment du coup d'État du Chili, j'ai eu la chance une fois, et ça, j'en aurai toujours une profonde reconnaissance, j'ai jamais eu l'occasion de lui dire, il est mort maintenant, avec Jean Kapiewicz. Et il a été secrétaire fédéral du Rhône pendant longtemps. C'est lui qui m'a poussé à prendre ceci, à prendre cela. Il voulait même que je devienne permanent une année. J'ai dit non, ça je ne deviendrai jamais permanent. Et il dit pourquoi ? Il dit pour deux raisons. Mon métier me plaît. Être permanent, ça ne me convient pas. J'aime bien faire ce que j'ai envie de faire. Pourtant j'étais chargé à l'époque. Et troisièmement, mes parents ne comprendraient jamais que je laisse le métier pour lequel ils se sont quand même sacrifiés. J'ai été le seul de la famille dans ce cas. Donc, mais il n'a pas insisté. Hein. Donc, avec Kapiewicz, à une année, il m'a fait nommer, j'ai été élu, comme délégué du Rhône à un congrès national du parti, celui de Nanterre. Ça, c'était un peu mon rêve, je ne l'avais jamais exprimé, parce qu'à l'époque, les communistes de l'époque... jamais ils auraient dit, moi je veux être maire, moi je veux me présenter aux élections, moi je veux avoir tel... Non, ça n'existait pas. Il fallait qu'on vienne nous chercher et qu'on nous dise si t'es capable, si tu vas faire ça. Autrement, non. Moi je vois aujourd'hui, je vois certains trucs, ça a beau être des camarades communistes, je me dis, pardon de Dieu, si j'avais fait ça à l'époque. Jamais ça nous serait venu à l'idée. Et ici, j'étais assis, il y avait toujours des délégations étrangères. Il y avait une centaine de partis mondiaux qui étaient représentés. Et en face de moi, il y avait une dame, déjà d'un âge, qui avait le visage très marqué d'origine indienne, et qui représentait le Parti communiste chilien. Elle était sénatrice, et quand le coup d'État a eu lieu, j'ai vu, dans l'UMA, ils énuméraient un certain nombre de personnalités fusillées, et ils ont donné le nom de cette femme, disparue, jamais retrouvée. Elle a été assassinée, purement et simplement. Bon, vous voyez, même aujourd'hui, je parle de ça, je ne lui ai pas parlé, hein. Je l'ai vue. Eh bien, j'en dirai pas plus, vous voyez. Ça fait partie de ce qu'il y a en nous, quoi.
Sin haber luchado derecho se fue a la gloria con el pecho atravesado. Las balas de los mandados mataron a la inocente. Lloraban madres y hermanos en el medio de la gente. Hicieron todos hermanos en la desgracia, peleando contra los lobos, peleando por una casa. Herminda de la victoria nació en el medio del barro, creció como mariposa en un terreno tomado. Y han llovido tres inviernos, Herminda en el corazón. Guardaremos tu recuerdo.
Au niveau lyonnais, je suppose que vous avez côtoyé Roger Pestoury aussi.
J'étais, et ma femme surtout, on était de grands amis avec Roger Pestoury. On se voyait fréquemment. Au bureau fédéral, il y restait longtemps. Donc il y avait une réunion par semaine. Hein. Et par la suite, on s'est vus jusqu'à son décès. Je suis allé chez eux souvent, etc. C'était... Ben lui aussi, personnalité remarquable, enfin bon, vous le connaissez. Je suis allé à son enterrement, là, il y a 3 ans maintenant, 3-4 ans.
Oui, 4 ans. 4 ans. Passé quelques semaines. Oui, on va revenir à votre histoire. Donc, oui, on était sur le début de votre adhésion et de votre travail en école en 54, donc.
54. Donc, sur la fin de l'année. Un jour, on dit, mais on va pas, parce qu'on avait commencé des actions, on avait lancé des pétitions, dont une qui avait très bien marché, la toute première qu'on a faite, de notre fête, hein, c'était pour les Rosenberg.
Vous apprendrez un jour, mes fils, vous apprendrez pourquoi nous reposons sous terre. Le livre à moitié lu, le chant interrompu, et la besogne inachevée. Ne pleurez plus, mes fils, ne pleurez plus. le monde entier saura le pourquoi du mensonge et de la calomnie. Le monde entier saura nos pleurs et notre peine. Joyeux et vert, mes fils, joyeux et vert, sera le monde au-dessus de nos tombes. Les tueries cesseront, la terre fleurira dans la paix fraternelle. Travaillez, construisez, mes fils, un monument à l'amour, à la joie, à la valeur humaine. Et à la foi que nous avons gardée pour vous, mes fils, pour vous.
Et comme moi je faisais de l'italien en langue, on n'était que 3 ou 4 à faire italien. Donc on avait un prof qui venait du lycée du Parc et qui venait nous faire des cours 2 fois par semaine, 2 heures, de 5 à 7 heures. Et j'avais entendu dire « Oh, mais Boissy, c'est un communiste !» Alors les copains ils me disent « Mais pose-lui la question, demande-lui, etc. Comment il faut qu'il s'y prenne pour faire une pétition, etc. » Alors j'osais pas trop parce que c'était un type très sympathique, très ouvert, marrant en plus. Et bon, au milieu du cours, on se reposait 5 minutes dans la galerie. Et là, je prends mon courage à 2 mains. Je dis, pardon, on m'a dit que vous étiez communiste. Nous, ici, on est quelques communistes. On voudrait faire quelque... Rayonnant. Rayonnant. Et bon, il dit, ben c'est bien, bien sûr. Alors, il nous a dit, ben faites comme ça, etc. Et voilà. Et de là, on s'est dit, on va pas rester comme ça quand même. Pourquoi alors, on était 12. Bon, de toute façon, que vous vouliez ou pas, moi j'adhère. La plupart disaient, oui, bon, on va attendre d'être sorti, hein, c'est dans 6 mois. Après, on sera libre. Mais moi, je me disais, dans 6 mois, ils vont partir chacun dans leur coin, ce sera fini. Alors, moi, j'adhère. Un autre aussi, un troisième aussi. Dit, bon, ben, ça suffit. Hein. Alors voilà, on fait comme ça. Alors, il y en a un ou deux autres qui se sont décidés. Et puis, on en parle au Martin, et on dit, bon, ben, on organise ça. C'était le 8 décembre, dimanche matin, sur le café qui est là, place Toby Robatel, qui n'existe plus aujourd'hui, café est mieux. Et on se réunit là, le dimanche matin, on était 10, et il y avait 3 normaliennes. Alors, on a tous rempli notre bulletin d'adhésion, et les 3 normaliennes, qui étaient pourtant bien, bien proches, elles n'ont pas osé. Elle dit, oui, mais comprenez-vous, c'est pas pareil, hein, les garçons, vous êtes quand même beaucoup... Mais nous, avec la dame, etc., bon, c'est vrai qu'elles avaient un régime qui était encore bien pire que le nôtre. Alors, il y en a qui ont adhéré par la suite, hein, du moins celles que j'ai connues plus tard.
Donc, ça, c'était le 8 décembre 54.
Oui. Et on s'est appelé Cellule Georges Lévy.
Georges Lévy, c'était qui?
Alors, Georges Lévy était un docteur qui était élu au conseil municipal de Villeurbanne en 1920, quand la majorité socialiste de Villeurbanne est devenue adhérente à la Troisième Internationale, en majorité. Donc le docteur maire, c'était Grand Clément, et puis Grand Clément est mort, mais plus tard. La mairie n'a pas pu être conservée longtemps, parce que les éléments modérés du Parti Socialiste continuaient, quoi, de social-démocrate, SFIO, a continué et a repris. Donc la mairie de Villeurbanne est redevenue communiste plus tard, et Georges Lévy est devenu rapidement député du Rhône, avant-guerre déjà, avec Félix Brun. Et puis, et là, il était très âgé quand je l'ai connu. Il avait 80 et quelques années. Mais je l'ai vu plusieurs fois, lui aussi.
Il était mort quand vous avez pris son
nom. Ah non, il était encore en vie. Même quand je suis revenu d'Algérie, il était encore en vie parce que je l'ai eu rencontré à Villeurbanne, exactement tout de suite avant que je parte. Je ne sais plus à quelle époque il est mort, ce serait facile à retrouver. Disons qu'il avait dans les 87, 88. À l'époque, c'était déjà pas mal, parce qu'on dépassait guère 80. C'est quelqu'un d'une gentillesse et d'une douceur incroyable. Et la cellule est restée, toutes les années, il y avait du recrutement. Elle est restée en vie jusqu'à... en 68, elle existait encore.
Mais restée comme cellule de l'école d'instituteurs ou elle s'est...
Cellule de l'école normale.
Cellule de l'école normale.
Oui. Alors au début, on était un peu semi-clandestin, je dirais. Et puis le syndicat des instituteurs, qui était dirigé dans le Rhône par des trotskistes, etc., des braves types qui étaient des syndicalistes. Dutel, c'était quelqu'un de très engagé dans l'extrême gauche, un peu provocateur et tout. Le secrétaire de l'époque a trouvé le moyen de dénoncer formation d'une cellule stalinienne, etc. Bon. Alors là, on était très en colère, on lui en a voulu. On lui a rien dit, parce que, jeune, on n'avait pas non plus tellement de culot.
Donc, 54, vous allez rester dans cette école plusieurs années?
Alors, enseignant, je suis resté 5 ans.
Cette école-là?
Dans l'école Antonin Perrin-Villeurbanne. De 54 jusqu'à juillet 59, où mon sursis arrive en expiration, il fallait bien y passer. Que j'avais un sursis, je l'ai fait durer.
Comment se fait-il que vous étiez sursitaire? Vous n'étiez plus étudiant à ce moment-là?
Non, mais à l'époque, ça fonctionnait comme ça. On avait un sursis pour terminer les études à l'ÉN, qui durait 5 ans. On pouvait le résilier. Si on nous demandait une justification, on allait s'inscrire à la fac, et on fournissait la justification. Donc, comme la guerre d'Algérie n'en finissait plus, je me disais, ça finira peut-être avant que tu partes, ça finira. Puis penses-tu, ça n'a pas fini non plus. Donc, je suis allé au bout.
Vous êtes allé au bout. Et quelle vision vous aviez de la guerre d'Algérie qui a commencé en 54-55?
Alors, en 54...
Pendant toute cette période-là, avant d'être appelé, qu'est-ce que vous en pensiez?
Eh bien, du début, j'ai eu l'opinion, je l'ai partagée totalement, aussi bien du point de vue réflexion, du point de vue conviction, du point de vue action... ce que faisait, ce que disait le parti.
Le parti, il était un peu gêné avec cette guerre d'Algérie, non?
Il a eu des passages où c'était difficile. Gêné, il y a eu des moments où il fallait choisir. Je vous en citerai, parce que j'y ai vécu. Gêné, on peut dire gêné aussi, c'était pas une politique facile. Pour plusieurs raisons, mais là, moi j'ai commencé tout de suite, distribution de tracts, j'ai fait du porte-à-porte, j'habitais rue de l'Hôtel de Ville, enfin rue Président Hériot maintenant, juste au-dessus du passage de l'Argue. Donc j'étais adhérent dans une cellule qui s'étendait de la place Bellecour jusqu'à la gare Perrache. Donc dans un milieu où on faisait à l'époque 10%, on considérait ça comme désastreux. Dans certains bureaux, on n'avait que 6%. Donc, c'était pas un milieu facile. Mais j'ai fait du porte-à-porte. Toutes les portes de cette zone-là, je les ai faites au moins une fois. Plus personne voulait venir avec moi dans la cellule. Il dit, tu vas te faire tuer. La façon dont t'es accueilli, tout ça. On faisait des fois 2 heures de porte-à-porte pour avoir 2 signatures. Mais je renonçais pas.
Est-ce que vous demandiez à l'époque, c'était la paix en Algérie?
On demandait la paix en Algérie, la reconnaissance du fait national algérien, et ouvrir les discussions avec ceux contre qui on se battait. En gros, ça a été le parti, sa lutte publique, ça a été pratiquement tout le temps celle-ci. Alors je sais, aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui, mais enfin, de moins en moins maintenant, mais on me l'a eu balancé à la tête souvent. Oui, mais vous, les communistes, vous étiez pas pour l'indépendance. J'ai dit, dis donc, toi, tu étais quoi à l'époque? J'ai dit, nous, on n'était pas pour l'indépendance. On était pour l'indépendance. Mais ce qu'on voulait, c'était que les Algériens aient la possibilité de choisir. C'était ça qu'on voulait. Le travail de la lutte pour l'indépendance, c'était l'affaire des Algériens. C'était pas la nôtre. Mais si on avait abouti à des négociations avec le FLN de l'époque, problème de l'indépendance, c'est pas nous qui allons l'octroyer, c'est eux qui allaient voir jusqu'où ils allaient. C'est devenu dramatique par la suite, parce que cette étape n'a jamais pu se réaliser. Mais c'était ça notre base. Alors il y a eu des moments terribles, ça je vous l'accorde. Hein. Parmi les moments les plus terribles, il y a la question du vote des pleins pouvoirs à Guy Mollet, que j'ai vécu, parce que Jean Cagne était député du Rhône à l'époque. Le groupe parlementaire, qui était d'une bonne centaine à l'époque, a discuté toute la nuit pour savoir s'il fallait oui ou non. C'était un piège dans les deux cas. Vous votez pas les pleins pouvoirs, c'est vous qui allez faire échouer les négociations. Il ne faut pas oublier que la majorité socialiste, radicale, communiste à l'époque, c'était la majorité à l'Assemblée, elle s'était fait élire sur la base de paix en Algérie, grosso modo. Or, on sait ce qu'il en est advenu. Guy Mollet a demandé les pleins pouvoirs pour pouvoir discuter. On dit oui ou on dit non. Il n'y a pas de oui-mais dans ces cas-là. Et il y avait la position non, on pouvait rester pur, hein, mais vous avez fait échouer les négociations. Votez pour, vous vous êtes vendu au va-t-en-guerre. Mais au moment du vote des pleins pouvoirs, c'était pas ça. Moi, je me suis toujours défendu là-dessus, bec et ongle. Et en ajoutant, de toute façon, quand ça s'est produit, moi, j'ai été d'accord avec la position des députés. Ils ont voté les pleins pouvoirs, ils ont bien fait. Et j'ai eu une réunion publique à assurer. J'avais 20, donc en 54, c'était en 56, j'avais 22 ans. On m'envoie faire une réunion publique à mon plaisir, à grande rue de mon plaisir, où l'élu du coin, qui était au conseil municipal de Lyon, s'appelait Georges Revel. Il était aussi un vieux routier, hein, il était déjà âgé. Il me reçoit là, et puis il me dit, bon ben, dans l'arrière-salle du bistrot, si on y va, il n'y a personne. Personne viendra. Je dis, mais si je demande au patron, il y avait plein de monde au bar, c'était 7h du soir, ou 6h30, je discutais dans tous les sens, il y avait peut-être 20 personnes. Il me dit, est-ce que tu te sens capable de... Oh oui, oui, je me prenais sur moi, je vous dis pas. Et il va discuter avec le patron. Alors le patron, il dit, ah ben il y en a, il veut faire une réunion publique là, vous voulez bien l'écouter? Alors les gars, avec leur canon, leur truc, il dit, oh oui, oui, on s'en fout, allez-y. Mais ils ont tous écouté. Alors moi, j'ai fait mon truc. Première question, oui, mais vous avez voté les pleins pouvoirs. Alors là, je m'y attendais, hein, c'était pour ça qu'il y avait... Enfin, combien vous voyez. Donc j'ai expliqué posément tout... ce que je viens de vous dire, en gros, que j'ai pas varié depuis, hein. Et puis voilà, ça s'est pas mal passé, j'ai pas été attaqué, ni rien. En 68, je l'ai été, par contre, des réunions publiques.
Oui, c'était pas une réunion de gens, c'était pas des militaires, c'était pas des bourgeois qui étaient là, donc.
Non, c'était vous savez, c'est ces gens qui se réunissent au bistrot, qui vont boire l'apéro avant de rentrer chez eux. Hein, ils sortaient du boulot, ou deux ou trois peut-être, qui sont un peu des piliers de bar, mais pas méchants. Ils étaient disposés à écouter, je sais pas ce qu'ils étaient, hein, un peu de tout.
Mes petits potes et moi-même, on partait en goguette, sans tambour ni trompette, comme une drôle de fanfare. Le vent qui nous poussait sentait fort l'anisette, et nous poussait pas loin, droit au but, droit au bar. Commençait tranquille, accoudé au comptoir, commentant sarcastique les chansons du jukebox. Le patron incrédule, debout derrière son bar, nous reluquait sous ses airs louches d'anciens champions de boxe. L'apéro, ça durait jusqu'à 8 ou 9 heures. Chacun payait la sienne, y a rien de plus normal. Puis le souci nous prenant, on mettait le cap ailleurs pour casser une petite graine et calmer nos fringales. Les restos du quartier, on les a jamais vus. On n'était pas miro, ils étaient pas cachés. Mais quand on arrivait, ils fermaient attendu qu'on avait fait des haltes pour en prendre un dernier. Là, on perdait, bien sûr, certains potes fatigués, défaillants d'avoir pas pu trouver la bectance. C'était des gosses fragiles, pas des grosses santé, et ils avaient du mal à tenir la distance. Histoire de faire comme si nous avions bien dîné, nous repartions aussi sec au cognac ou au mar, dans un troquet sympa, délicieux mal famé, où ça sentait le tabac, la voyouse et la nare. On y trouvait toujours quelque épave échouée, saluant pleine d'emphase notre belle jeunesse, philosophe d'un soir à la mer destinée, nous enjoignant de croire sa profonde sagesse. Quelques poivrons fameux y chantaient l'opéra, chansonnette d'amour qu'il dédiait en artiste à ces dames macadam souriantes venues là reposer leur guibole entre deux clients tristes. Ignorant le vacarme et nos chansons d'ivresse, et comme l'air absent sous son chignon parfait, la patronne maussade derrière son tiroir caisse tapait ses additions d'un doigt mou et distrait. Les petits potes et moi-même, on vidait bien nos verres. On les vidait cul sec et tassés, faut voir comme, absorbant à tout prix, à tort et à travers, de quoi être fin sous et se prendre pour des hommes. On en a pris là-bas des grandioses, des sévères, à s'en faire jalouser par les pires polonais. Mais on était heureux et même on était fiers de trinquer avec toute cette crème d'humanité. Sur le coup des deux heures, tout ce monde bien coquet, un certain met debout vacillant sous la lune, se séparait alors plein de fraternité, chacun sous son étoile de mauvaise fortune. Moi je rentrais chez moi en marchant de travers, assisté, soutenu par mon ombre gardienne, m'arrêtant quelquefois au pied d'un lampadaire, en pensant aux copains, je me disais qu'est-ce qu'ils tiennent.
Et vous avez participé à des manifestations à cette époque-là?
Sans arrêt.
Sans arrêt.
Toutes les manifestations qui ont eu lieu. Si j'y étais pas, c'était soit que j'étais malade, ce qui m'est rarement arrivé, soit que bah, je ne sais pas où j'étais.
Qui se passait bien ou il y avait des affrontements avec la police?
Ça s'est fort bien passé, sauf en 56, mais là pour d'autres raisons. C'est quand le siège fédéral a été assiégé au moment de la Hongrie. Là, il y a eu des bandes de fascistes, il y avait 2000 gars qui gueulaient devant la Fédé, certains qui voulaient rentrer. On avait des rouleaux de fil de fer barbelé pour balancer dans les escaliers pour qu'ils montent pas. Des manches de pioche s'ils étaient rentrés dans le siège. Enfin bon, c'était un peu de la défense. Hein. Mm-hmm. Les flics étaient en bas. On pouvait ni rentrer ni sortir. Ils étaient plutôt favorables.
Comme d'habitude.
Comme d'habitude, mais là c'était encore plus net. Puis bon, ça s'est calmé plus ou moins. Moi j'étais un peu embêté parce que j'étais dans le siège et à 3h du matin j'y étais encore. Mais à 8h, j'allais faire ma classe. Donc, je me disais, il faut quand même que tu sortes, parce que même au moins avant 7h, même si tu dors pas, tu feras ta classe quand même. Et puis, à un moment donné, Julien Hiroldi, qui était conseiller général de Gerland, il dit, moi, je m'en vais, tu vas voir les flics. Alors, il met sa banderole bleu-blanc-rouge. Je lui dis, bon, ben moi, je te suis. T'es un grand balèze. Et je me mets dans son sillage, et il arrive en bas, et il dit, non, on sort pas! Alors lui, il se fâche, puis je fais voir son truc, on sort pas, mais moi, je rentre chez moi, j'ai envie de dormir, etc. Il se met à les engueuler un petit peu, il dit, mais si vous sortez, vous n'aurez pas le droit de revenir. Mais si je sors, c'est pas pour revenir. Bon, ben allez, passez! Alors moi, je suis passé derrière. Alors, à l'école, quand je suis parti en 59, le directeur m'a dit un jour, vous savez, on vous l'a jamais dit, mais si un jour vous aviez été absent et que vous ne nous ayez pas prévenus dans la matinée, le soir à 5h, toute l'école partait, hein, et on allait voir où vous étiez. Et si on vous avait mis en prison, eh bien, Antonin Perrin, on les aurait entendus. C'est incroyable, hein, ça. Et pourtant, vous savez...
La solidarité.
Ah oui, oui, oui. Bon, il y avait tout parmi ces maîtres. Il y avait, en particulier, du côté de l'école de filles, il y avait des dames qui étaient non syndiquées. À l'époque, c'était extraordinaire, etc.
Allez, n'oubliez jamais que notre force est l'unité. Ventre plein ou bien ventre affamé, n'oublie jamais la solidarité. Debout, peuple de la terre, un seul but, unissez-vous. Que la terre soit notre terre, notre nourriture à tous. Allez, n'oubliez jamais que notre force est l'unité. Ventre plein ou bien ventre affamé, n'oublie jamais la solidarité. Les bruns, les blancs, jaunes ou noirs, cessez de vous massacrer. Que les peuples enfin se parlent, l'accord viendra sans retard. Allez, n'oubliez jamais que notre force est l'unité. Ventre plein ou bien ventre affamé, n'oublie jamais la solidarité. Vous tous êtes nécessaires si nous voulons arriver. Et ne pas aimer son frère et refus de progresser. Allez, n'oubliez jamais que notre force est l'unité. Ventre plein ou bien ventre affamé, n'oublie jamais la solidarité. Ne prêtons pas d'armes aux maîtres, heureux de nos désaccords. Ils demeureront nos maîtres tant que dureront nos torts. Allez, n'oubliez jamais que notre force est l'unité. Ventre plein ou bien ventre affamé, n'oublie jamais la solidarité. Prolétaires de tout pays, l'union c'est la liberté. Vos bataillons et vos armées effacent les tyrannies. Allez, n'oublions jamais, posons franchement la question. Ventre plein ou ventre creux, à qui appartient le matin, tous les matins du monde?
Notre émission, première d'une série de quatre, était consacrée au parcours d'Edmond Fongeat dans la période qui a précédé son incorporation. Au fil de cette émission, vous avez pu entendre les illustrations musicales suivantes. Les bienfaits de l'instruction, interprété par Christiane Auriol. Puis c'était Les Octaves qui interprétaient sur un texte de Georges Coulonge « Nous ne bougerons pas », une adaptation française d'un traditionnel syndical américain sur une musique de Negro Spiritual. Ensuite, c'était la chanson « Les communistes » de Maurice Fanon, interprétée par Pia Colombo. Puis, vous avez entendu de et par Victor Rara, « Erminda de la Victoria ». Ensuite, Jean Ferrat interprétait sur sa musique et sur le texte d'Eli Rosenberg « Si nous mourons ». Puis, c'était un extrait de la chanson « Les bistrots » par Pierre Delorme, qui en est l'auteur et le compositeur. Enfin, Hélène Martin interprétait la chanson de la solidarité, texte de Bertolt Brecht, musique de Hans Eisler. Notre prochaine émission sera consacrée à la période de l'incorporation d'Edmond Fongeat pour une dizaine de mois en métropole, puis à son arrivée et au début de son séjour en Algérie. ¶¶
Thank you.